Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro pour cette première de la semaine et Nicolas Vatman à la technique. Voilà, en première partie d'émission, c'est lundi bien sûr, donc c'est la chroniqueuse de nutrition Louise Thibault qui va nous parler un peu de ses écarts du temps des fêtes. Est-ce une bonne idée? Elle nous le dira après la première pièce musicale. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Anne-Marie Lefebvre qui va nous parler du rallye Dakar 2022. Elle était là-bas, pas comme coureuse, mais non, elle n'était pas en train de courir là. Elle était là-bas comme journaliste, reporter. Elle va nous parler de ça. Voilà, c'était du 1er janvier au 14 janvier, si je ne me trompe pas. Restez à l'écoute. On part tout de suite avec Pierre Sabourin, Suzanne.
Suzanne, tu tombes à l'eau de rose, au fond de tes rêves brisés, et tu dis que c'est à cause que la vie t'a fait divaguer. Suzanne, tu tombes d'une falaise, ta propre main t'y a poussé, et ton cœur glisse sur la glace, et mes mains ne cherchent qu'à l'attraper. Mais quand tu sauteras à la mer, je sauterai aussi pour noyer dans ta vie. Mais quand je dis je t'aime à l'infini. Suzanne, mon amie. Oh, Suzanne. Suzanne, t'as perdu tes ciels bleus, t'as que des nuits sans soleil couchant, et tu dis que c'est à cause que les couleurs s'éclipsent avec les tourments. Suzanne, relève la tête un peu, il y a si longtemps que tu ne m'as pas souri. Et quand je dis comme tu es belle, c'est à ton âme que je pleure aussi. Quand tu sauteras à la mer, je sauterai aussi noyer dans ta vie. Quand je dis je t'aime à l'infini, Suzanne mon amie. Oh, mon amie. Quand tu sauteras à la mer, je sauterai aussi pour me noyer dans ta vie. Oh. Et quand je dis je t'aime à l'infini, quand tu sauteras à la mer, je sauterai aussi pour me noyer dans ta vie. Quand je dis je t'aime à l'infini, Suzanne mon amie, Suzanne mon amie. Di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Oh, 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 Suzanne.
Claudia Sabourin, Suzanne, notre chroniqueuse de nutrition, la docteur Louise Thibault, docteur en nutrition, est déjà au bout du fil. C'est avec elle qu'on apprend beaucoup de choses. Comment se nourrir, comment voilà, prendre soin de soi. Plan alimentaire, nutrition, voilà, d'accord, elle est bien placée pour nous parler de ça. Aujourd'hui, c'est comment commencer pour ces écarts du temps de fête. Est-ce une bonne idée? Et elle va nous parler aussi de la fameuse culpabilité du mois de janvier suite aux excès alimentaires de la période des fêtes. Et puis, faut-il ou non compenser pour ces écarts du temps de fête? Là est la question.
Oui, est-ce une bonne idée?
Oui, est-ce une bonne idée? Bonjour Louise Thibault.
Bonjour Fulgence Blas.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien, même si le mois de janvier est un peu aride.
Oui.
Il reste qu'il faut prendre soin de soi.
Oui.
Hein, il faut prendre soin de soi, il faut prendre l'air et il faut toujours essayer de prendre soin de soi en mangeant bien. Et peut-être en mangeant un peu mieux. Mais à quel point est-ce qu'on devrait compenser pour les écarts alimentaires qu'on a peut-être faits durant le temps des fêtes?
Oui, comment on arrive à compenser ça, Louise?
Eh bien, avec le début de l'année, peut-être que vous, Fulgence, ou certains auditeurs, auditrices, vous sentez-vous coupable d'avoir festoyer et manger, peut-être bu un peu trop de nectars alcoolisés, par exemple.
Non, à nectar alcoolisé, non, mais j'ai beaucoup un peu trop mangé, peut-être.
Ah bon?
Mais je ne le regrette pas du tout de l'avoir fait, parce que je me suis dit, c'est une fois dans la vie, je peux me le permettre quand même.
Ah, alors ça, c'est un très bon point.
Ouais.
Ça arrive qu'une fois par année, comme le dit la chanson. Et la culpabilité, oui, vous pouvez la ressentir, mais peut-être que vous avez pris quelques kilos.
Ouais, je...
Période...
Ouais, quand je me regarde, oui, mais je ne m'en fais pas pour ça.
Bon.
Je vis avec.
Très bien, c'est très bien.
Voilà.
Et dans votre entourage, vous connaissez peut-être des personnes qui vous ont fait des remarques sur votre poids.
Ah non, personne ne... Non, on m'a jamais fait de remarques sur mon poids, au fait.
Mais vous avez de la chance.
Oh ouais, je...
Ça existe, et puis c'est souvent ce qui motive les personnes à essayer de manger moins et de s'inscrire au gym, ce qui n'est pas mauvais, au gym virtuel, attention, pandémie oblige. Il y a des gens, puis il y a aussi, vous avez peut-être remarqué autour de vous, là, il y a beaucoup de nouvelles publicités.
Ou bien, Louise, peut-être que je connais des gens, ou bien je suis entouré des gens qui ne font pas tellement attention à ce genre de choses. Pour eux, c'est pas important, la personne qui compte, c'est Fulgence qui est en face. Ou bien quelqu'un d'autre qui en fasse, c'est tout, quoi. C'est pas
le poids. Vous avez de très bons amis, de très bonnes connaissances.
Voilà, c'est pas une priorité dans mes
connaissances. C'est pas le cas de tout le monde. C'est, alors, c'est... vous qui nous écoutez, vous reconnaîtrez peut-être comme parfois étant la victime de certains commentaires désobligeants sur votre poids.
C'est méchant, c'est très méchant, ça.
C'est méchant.
Oui.
Et puis, ce qui est aussi méchant, c'est la publicité, les programmes qui foisonnent ces temps-ci, perdre kilos en un mois ou en une semaine, perdre 10 kilos en une semaine, j'ai déjà vu ça sur des feuillets publicitaires. Alors, tout ça nous encourage à peut-être succomber à la tentation de faire un petit régime.
Oui, oui.
Ou
oui.
D'acheter des produits ou des pilules amaigrissantes, il y en a beaucoup. Et à ça, je réponds stop.
Stop, merci, je m'attendais à dire ça. Qu'est-ce que tu réponds, Louise?
Stop,
tu l'as déjà dit. Voilà, la réponse y est déjà. Voilà.
Vous connaissez la chanson.
Parce qu'on a, comme tu viens de le dire, à la télé, Louise.
J'ai trois raisons très simples pour vous en convaincre.
Louise.
Ouais.
En parlant de publicité, on en a plein la vue à la télé. Hein. Dans les journaux aussi, voilà, c'est un peu trop.
Ah, c'est un peu trop, mais et ça ne s'arrête pas parce qu'on dit que c'est un peu trop, ça continue parce que...
Ah, oui, malheureusement.
beaucoup d'argent. C'est une industrie qui est extrêmement lucrative, ça rapporte des milliards de dollars.
Ah oui, ah oui.
Ouais, et surtout, ça commence en janvier.
Ah oui.
Alors, je vous disais que j'avais trois raisons pour vous dire stop.
Oui.
Première raison... C'est normal de se sentir coupable. Alors ça n'a rien d'anormal. Vous êtes tout à fait ordinaire de vous sentir coupable et la pression de compenser pour les soi-disant excès des temps des fêtes, eh bien, ça arrive beaucoup, beaucoup dans notre culture parce qu'on vit dans une culture qui glorifie la minceur.
Ouais, c'est là où le bas blesse. Oui, c'est là le mal. Oui, c'est de là que ça vient, quoi, au fait.
Et puis, un livre dont je vous ai parlé, dont le titre était, je crois, Des essais sur la beauté, parlait surtout de la minceur et de la culture nord-américaine, mais aussi en Europe beaucoup. Eh bien, la personne qui est considérée comme belle en santé, eh bien, elle est mince.
Oui.
Donc, ce qui est aussi normal, c'est qu'on mange différemment autant des fêtes, comme vous le disiez, comme tu le disais précédemment, hein?
Mmh.
Les plats du temps des fêtes, le plat de décembre, ils sont généralement plus riches.
Oui, oui, c'est des plats spéciaux.
Ben oui, c'est des plats spéciaux. Ils sont plus riches en sucre et en gras, notamment.
Mmh.
Et puis, nos occasions de faire bonbons, eh bien, elles sont très nombreuses.
Mmh.
Donc, est-ce qu'il faut se surprendre que notre alimentation ait changé durant ce temps-là? Non. C'est normal. Ben c'est la période au Québec, entre autres, où on mange beaucoup de tourtières, de ragoûts de pâtes, de tartes, de bûches de Noël. Et on en mange à ce moment-là de l'année, mais très peu en dehors de cette période de l'année. Donc, pourquoi
oui,
est-ce qu'on appellerait ça le temps des fêtes si ce n'était pas le temps où on mange tous ces bons plats, savoureux, mais aussi très riches?
Oui.
Donc, ben, comment on peut se sentir après ça? Ben, on peut se sentir un peu coupable. Et il se peut même aussi que vous connaissez des personnes que vous admirez pour leur alimentation exemplaire, des personnes qui sont vraiment à l'écoute de leurs signaux de faim et de rassasiement. Et ben, il se peut que ces personnes-là aussi avouent être coupables d'avoir fait des excès, quelques excès ou beaucoup d'excès.
Oui, oui, ça va.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit restreindre notre apport alimentaire?
Restreindre, bon, je ne dis pas forcément, mais c'est parce que ce n'est pas les mêmes menus, ce n'est pas les mêmes repas, ce n'est pas les mêmes plats.
C'est ça. Alors, il y a des gens qui vont se lancer dans un petit régime qui va devenir un gros régime.
Voilà. Un petit régime, tu vas devenir un gros régime par la suite, quoi. Ouais.
Oui, c'est ça. Alors, ben, ça fait partie de ma deuxième raison de ne pas compenser pour ces écarts alimentaires du temps des fêtes, parce que la restriction alimentaire, c'est ardu et ce n'est pas une solution viable.
Oui.
Ah. Alors, si vous tentez de vous débarrasser de ces quelques kilos du temps des fêtes, eh bien, vous risquez de tomber dans un cercle vicieux.
C'est vrai.
Et on appelle ça, en nutrition et en psychologie de la nutrition, le cercle vicieux de la privation.
Ah, le cercle vicieux de la privation. Ça, j'ai jamais entendu ça. Oui, d'accord.
Alors, la privation, elle va invariablement mener à compenser et peut-être à faire des excès.
Oui, ça,
si on se prive, par exemple, d'aliments qu'on aime beaucoup,
ouais.
Et à un moment donné, on ne peut plus tenir dans la privation et on va faire des excès.
Par exemple, quand on se met à cacher les tablettes de chocolat qu'on connaît, qu'on aime bien, quoi.
Ben, c'est ça, oui.
Voilà.
Alors là, on va tomber dans ça et puis on va faire des excès.
Ouais.
Et qu'est-ce qui arrive une fois qu'on a fait des excès? Eh bien, on va le regretter et on va retomber dans la privation qui, à son tour, va nous faire faire des excès.
Oui.
Alors, c'est très difficile de trouver un équilibre quand on se prive de nos aliments favoris.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ce qui mène à ma raison numéro 3, pour ne pas compenser de façon excessive, je dis bien, à nos écarts alimentaires, c'est que notre corps n'en fait qu'à sa tête.
Ouais, de toutes les façons, tu nous as déjà plusieurs fois expliqué ici. Bon, c'est cet effet de yo-yo ou bien de montagne russe, comme on dit souvent.
Ah ben c'est ça, mais le yo-yo, voilà. En montant, hein, le yo-yo, il ne reste pas stable, il monte.
Souvent, quand
on va perdre un certain nombre de kilos, eh bien, on va les regagner, hein, parce que notre corps veut compenser, mais avec quelques kilos en plus. Et c'est ça qui, selon certains experts de la nutrition, expliquerait que les régimes alimentaires peuvent être amaigrissants, peuvent devenir engraissants avec le temps.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne réussit pas à tout le monde de toutes les façons.
Ça réussit à moins de 5%.
Ouais, très peu de gens, oui.
Oui, c'est pas beaucoup ça.
Oui, oui.
Alors, notre corps, ben, il est programmé pour maintenir notre poids à l'intérieur d'un certain intervalle. En langage, en anglais, on appelle ça the body set point.
Okay.
Le point où notre poids demeure en équilibre. Et ça, cet intervalle-là, il est unique à chacun de nous,
ouais,
à chacun de vous. Et puis, il faut savoir aussi que c'est normal que notre poids fluctue suite, par exemple, à certains excès, mais selon l'heure de la journée, selon le jour de la semaine, selon la période du mois, chez les femmes, lors du cycle menstruel, alors il y a des fluctuations de poids,
oui,
qui sont tout à fait normales. Alors, plutôt que de tenter de contrôler votre poids, moi, je vous propose d'écouter votre corps. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on écoute notre corps?
Oui.
Et ben, ça peut commencer, par exemple, là, être à l'écoute des petits gargouillements que vous avez dans votre ventre.
Alors, aller manger quand on a faim.
Aller manger quand on a faim.
Oui.
Et aussi, porter plus attention à la sensation d'avoir le ventre plein au milieu du repas ou vers la fin du repas. Essayez de penser, de ressentir dans votre ventre, est-ce que j'ai assez mangé?
Oui.
Ou si, dans vos papilles, est-ce que j'ai moins de plaisir à manger? Est-ce que les aliments sont moins goûteux?
Oui, ben ça, parce que l'assiette est encore pleine qu'il faut continuer, quoi.
Ben non, c'est pas obligé.
Mmh.
Alors, ce sont il y a beaucoup de petits signes que votre corps vous envoie qui vous indiquent qu'il a soit besoin de manger ou qu'il a assez mangé.
Parce que je sais de quoi je parle. Il y a des moments où je me plaignais le soir, après mon repas de soir. Ouh, mon ventre, oh, mon ventre, oh, mon ventre.
C'est que le ventre, il se plaignait avant la fin du repas.
Voilà. Donc, après, à un moment donné, j'ai pris la décision catégorique. Je dis non, il n'est plus question de faire souffrir mon estomac comme ça chaque soir.
Mmh.
Un truc léger, bien là, et puis bon, depuis ce temps, j'ai arrêté de me plaindre.
Bon, ben c'est bien ça, c'est bien. Alors, il faut continuer d'écouter ton corps.
Oui.
Et il faut aussi te demander, avant de manger un dessert, est-ce que j'ai vraiment faim pour le dessert ou si j'ai envie de manger ce dessert?
Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça après la portion que je viens de prendre?
Ouais. Oui, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce deuxième ou de ce troisième verre de vin?
C'est ça, c'est les petites choses.
Est-ce que ce sont les gens qui m'entourent et qui prennent tous de dessert qui font que moi aussi j'en prends? Hein, on a déjà parlé d'effet caméléon.
On se laisse tellement influencer. Oui, l'effet caméléon. On se laisse tellement influencer.
Voilà,
on fait partie de la clique. Ouais. Mmh.
Alors, tout ça peut nous porter à nous demander qui tient la fourchette, qui porte le verre à notre bouche.
C'est nous-mêmes.
Ou c'est les autres.
C'est nous-mêmes.
Eh ben moi, je dis que ce sont souvent les autres, les gens qui nous entourent, qui tiennent la fourchette.
Ouais, non, qui nous obligent quelque part, indirectement. Hein, c'est pas
inconsciemment.
Inconsciemment, voilà, ils le font sans le savoir. On le fait sans le savoir. Bon, ben, on veut pas découvrir. On veut tenir compagnie aux autres. On prend un troisième verre, quatrième verre, et puis on prend la.
Ben oui, tout le monde fait comme ça. Donc.
Voilà, et puis bon, ben après, on se dit, ouf, j'aurais pas dû.
Ah, ouais.
On a la fin.
Presque.
Oui.
Donc, en ce début d'année, je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de la culpabilité.
Oui.
C'est le vicieux de la restriction alimentaire et des régimes. Et j'aimerais aussi vous parler d'une personne, d'une nutritionniste, dont j'admire les publications. Cette personne, elle s'appelle Julia Lévy Ndjuru. Elle est nutritionniste. Elle écrit... elle écrit des blogs et elle écrit aussi pour l'organisme québécois Équilibre.
Oui.
Donc, à retenir, Équilibre, qui est un organisme qui s'inspire du travail de Julia et qui promouvoit une saine alimentation et de faire la paix avec son corps.
Wow.
Donc,
faire
voilà.
La paix avec
et un
son
petit
corps.
Mot sur Julia, c'est une personne à qui j'ai enseigné à l'Université McGill il y a quelques années, donc je suis très très fière de la citer aujourd'hui.
Oui,
Julia
oui.
Lévy Ndjuru.
Une de tes anciennes étudiantes, quoi. Mm-hmm.
Et oui, comme quoi parfois l'étudiant peut dépasser le maître.
Ouais.
Là,
ouais, l'étude, ça arrive pas souvent non plus, mais ça arrive.
Ça peut arriver.
Ouais, ça peut arriver, pourquoi pas. Je ne sais pas si la docteur en nutrition aussi, ou bien, mais voilà.
Elle a fait une spécialité en psychologie.
En psychologie, voilà, donc...
C'est très très bien.
Ouais. Merci
Alors,
beaucoup, Louise.
Aujourd'hui, je lui enverrai un petit mot pour qu'elle écoute cette chronique.
Merci beaucoup, Louise.
Je t'en prie.
Bon reste de semaine, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. In the work, they wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. And getting bitches and models, and it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again.
Hey, just checking. Was that last take more what you had in mind?
Pretty good. Could you try to be sexier? Maybe more likable this time?
Okay. Okay, no problem.
By the way, excellent work over there, Lauren. That was astonishing.
Thanks.
Taylor Swift, The Man. Voilà. Okay. Là, j'ai quelques minutes, là, je vais en laisser tomber la dernière pièce de cette première partie de l'émission pour que je puisse parler de certains sujets dont j'ai choisi pour vous, voilà, pour moi et pour vous d'ailleurs, en commençant par la disparition de... Il y a le Musée des Beaux-Arts qui regrette beaucoup la disparition de Manfred Thierry Magler. Ouais, Mugler, vous pouvez dire comme vous voulez. Il est mort hier à l'âge de 73 ans. Thierry Mugler. Ouais, donc le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui pleure la disparition, c'est pas lui seulement, il y a le milieu de la mode aussi qui pleure ce grand artiste, ce grand homme de ce génie d'ailleurs, et extravagant, cette tenue vraiment qu'on peut pas porter tous les jours pour aller se balader là dans les rues de Montréal, non, c'est pas possible. Pour ceux qui ont vu les tenues de ce monsieur-là. Alors, il est parti, il nous a quitté hier, que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix, bien sûr. Et donc, c'est la disparition d'un des créateurs de mode les plus marquants du siècle. C'est un artiste visionnaire, Manfred Thierry Mugler, en français bien sûr, qui a révolutionné l'univers de la mode par un style architectural, des silhouettes audacieuses, empreintes de fantaisie et une technicité nouvelle. Moi, je pourrais ajouter là-dessus simplement d'une architecture. Voilà, ouais, ses ciseaux étaient bien architecturales, hein, les ciseaux de son équipe, sa créativité. La griffe Thierry Mugler, il a fait sa marque dans les années 80 avec des tailleurs architecturaux à la taille corsetée qui sublime une femme puissante et sensuelle. Ouais, je me rappelle de cette tenue-là, j'en ai regardé d'ailleurs hier quand j'ai appris sa mort. Je suis allé voir certaines anciennes vidéos de ce grand révolutionnaire de la mode. Et durant sa carrière, il a habillé une myriade de stars d'hier, Diana Ross, David Bowie, Liza Minnelli et d'aujourd'hui Cardi B, Lady Gaga et autres, pour ne citer que ces stars-là et de ces créations qui évoquent tour à tour le glamour hollywoodien, le rêve, la faune, l'érotisme et la science-fiction. Il a créé des costumes pour les tournées et vidéoclips de Beyoncé et de Mylène Farmer, ainsi que de ceux du spectacle Zumanity du cycle du soleil et de la tragédie de Macbeth pour la comédie française au Festival d'Avignon. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il a touché à beaucoup de choses. Voilà. Et metteur en scène aux normes, il a réalisé des défilés de mode les plus spectaculaires de son temps. Il a plus tourné le clip emblématique des années 90, Too Funky, un chanteur britannique, George Michael, lui aussi qui nous a quittés il y a quelques décennies. Oui, George Michael a collaboré avec de nombreux cinéastes, architectes, photographes et artistes de renom, dont Helmut Newton, Dominique Eastman et Jim Bourdin. Alors, tout un parcours celui-là, tout un parcours. Voilà. En février 2019, le Musée des Beaux-Arts de Montréal avait inauguré en sa présence le couturissime. Voilà, il est passé ici, quoi. Bon, c'est fini, je n'ai plus assez de temps. Que la télé soit légère. On dit, mes condoléances et mes sympathies à toute sa famille et à ses proches. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire et puis la première pièce musicale, on va recevoir Anne-Marie Lefebvre qui vient nous parler du Rallye Dakar 2022. Elle était là-bas comme reporter. Alors, ne quittez pas si vous voulez en savoir plus. Le Paris-Dakar, ouais. Section pandémie.
Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Tu me demandes qui je suis. Je suis de question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Thank you.
cher, mais tu me fais parler. Arrête de me demander qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux.
Daniel Bélanger, rêvait mieux. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Anne-Marie Lefebvre, qui est revenue en pleine forme du rallye Dakar. Voilà, après avoir passé ce temps là-bas, je vois bien, je peux dire au soleil, au chaud, pourquoi pas, au chaud et au froid en même temps, parce que dans le désert il fait froid le soir, pourquoi pas. Cette dame qui n'a pas peur des défis, des gens, de choses comme ça. Qui... Et bonjour Anne-Marie Lefebvre.
Bonjour.
Et bonne année à vous en même temps. Voilà.
Merci, pareillement.
Très heureux de vous réentendre, Anne-Marie.
Oui, c'est un plaisir.
Alors, comment ça s'est passé?
Ben,
Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvée là, même là, au Paris, en tant que reporter, journaliste, patronnée par des partenaires, des sponsors, des membres? Comment on se retrouve à deux reprises à cet événement mystique? Pour moi, c'est un événement mystique quand même, le rallye de Dakar.
Oui. Ben, la première fois, c'est que c'était il y a 21 ans, en 2001.
Oui.
Et il y avait un coureur québécois qui s'appelle Patrick Trahan.
Oui.
Et Patrick allait courir à moto et se cherchait qu'un journaliste pour suivre son périple puis en faire parler au Québec.
Oui.
Donc, à l'époque, on m'avait proposé ça. Là. Patrick m'avait approché.
Mm-hmm.
Et j'ai vécu à ce moment-là une expérience qui était géniale, inoubliable. C'était à l'époque toujours de Paris jusqu'à Dakar.
Oui, donc à l'époque, oui. Mm-hmm.
C'était le trajet le mythique là, d'origine créé par Thierry Sabine. Et donc, une des dernières éditions d'ailleurs qui avait lieu là-bas. Puis là, ben, cette année, c'est que j'ai appris entre les branches des réseaux sociaux que Patrick y retournait, mais cette fois à titre de membre de l'équipe d'organisation.
Wow. D'accord.
Alors, quand j'ai vu ça passer, je l'ai contacté, puis je lui ai dit que je voulais retourner parce que dans ma tête, c'était quelque chose que je voulais revivre. Là, ça faisait bien des années que j'y songeais, que j'en rêvais. Puis là, ben, je me suis dit, ben, c'est le moment ou jamais parce que lui, il retourne. Et donc, ça va peut-être faciliter mon entrée.
Oui.
Et parce qu'il y avait un Québécois qui était là. Parce qu'autrement, c'est pas évident de convaincre et la presse canadienne et le Rallye Dakar qui vend ses accréditations de recevoir une journaliste alors qu'on n'avait pas de concurrent du Québec.
Oui, donc, c'est ce que j'ai remarqué. D'ailleurs, il n'y avait aucun concurrent, il n'y avait aucun représentant
voilà.
Dans le désert là-bas pour nous, en dehors des journalistes, quoi, oui. Mm.
Oui, c'était pas acquis que le journal La Presse soit intéressé, puis encore moins que le Rallye Dakar veuille me faire une place, parce que les places sont comptées.
Oui.
Dans l'équipe de, tu sais, dans les invités membres de la presse, on a des, toute une structure de logistique qui est là pour nous, mais les sièges sont comptés. Donc, et puis, ben, je me suis dit, ben, si puisqu'on on a un Québécois qui est là-bas, même s'il n'est pas concurrent, ben ça ouvre un peu la porte. Tu sais, c'est un pied dans la porte. Alors,
oui.
J'ai fait les démarches et puis ça a fonctionné. Mais c'était tout un parcours du combattant pour moi jusqu'à la dernière minute parce que j'avais la crainte de contracter la COVID avant de partir.
Oui, c'est vrai, puis, c'est vrai. On a toujours en pandémie.
Il y avait tellement de... Ma fille, il y avait la COVID. J'ai passé le Noël, ma fille était confinée au sous-sol.
Oui.
Parce que moi, il fallait donc pas que je l'attrape, puis on était sur deux niveaux dans la maison. En tout cas, bref, c'était vraiment jusqu'à la toute dernière minute, je savais pas si j'allais pouvoir partir. Mais donc, quand je suis montée sur l'avion pour aller vers l'Arabie Saoudite, là, j'étais tellement heureuse
et, ouais, je peux
et tellement et à l'idée de vivre ça à nouveau.
Anne-Marie, oui. Une autre question avant de continuer, avant de nous parler un peu de ce dernier rallye-là. Est-ce que Anne-Marie est née aventurière?
Mm-hmm. Ben oui, parce que en fait, mon Dieu, je me souviens pas de ne pas avoir été aventurière.
Ah bon?
Est-ce que c'est une bonne réponse?
Oui, c'est vrai.
D'aussi loin que je me souvienne depuis que je suis toute petite, je pars faire mes aventures en tricycle quand j'ai comme 3-4 ans. Là. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai vraiment ce goût pour la découverte, pour l'aventure d'aller vers des sentiers que j'ai jamais foulés.
Oui.
Et aussi de me lancer dans des défis. J'aime explorer, j'aime faire des choses que j'ai jamais faites auparavant.
Oui.
Repousser mes limites, hein, c'est des choses qui sont bien ancrées en moi.
Ouais, c'est ce qui fait que je parlais la dernière fois à notre première rencontre ici de votre folie concernant la marche sur le pont Champlain. Oui. je vous connaissais pas. Oui. Et maintenant quand j'ai découvert quand Catherine, la recherchée de l'émission, m'a dit ah Fulgence, il y a Anne-Marie qui s'en va au rallye Dakar. J'ai dit mais elle n'arrête pas elle. Du pont Champlain, j'ai dit bon ben écoute, il faut que tu lui dises de passer nous voir quand elle sera de retour.
Merci beaucoup.
Alors, parle-nous un peu. Alors, comment ça se passe? D'abord, on va parler un peu de ça. Ça a été du 1er janvier au 14 janvier 2022.
Hein. Ouais.
Deux bonnes semaines bien remplies. Et puis c'est le plus long rallye au monde.
Oui. Oui, on dit que c'est le plus dur.
Le plus dur. 8384 kilomètres.
Oui.
Dans le désert, cette fois-ci, ça a été dans le désert d'Arabie.
Oui, on a fait le rallye pendant plusieurs années en Amérique du Sud. Et puis là,
ils sont repartis.
La troisième édition qu'on est en Arabie Saoudite.
Oui.
Et donc, c'est différent de ce que j'avais connu en 2001 parce que
Paris-Dakar.
Paris-Dakar, c'était en Afrique, c'était vraiment intéressant parce que la communauté venait vers nous, les gens, la population s'approchait de la piste, venait vers nous. Puis en plus, on passait à travers des terrains différents, des pays, on traversait des frontières, on voyait des cultures différentes, des paysages différents.
Oui.
Alors que là, c'est essentiellement toujours pas mal, c'est le même pays, de deux, c'est toujours pas mal le même décor.
Oui, toujours le désert.
C'est ça, et les Saoudiens sont moins interpellés par l'épreuve, par l'événement, donc ça se vit en vase clos.
Oui, ils ont d'autres chats à fouetter que le rallye, le Dakar.
Oui, c'est ça, ça les interpelle moins, mais sinon quand même sur le village qu'on appelle le bivouac, on est quand même 3000 personnes qui vivent cette aventure-là au quotidien, si on compte les concurrents, puis les mécaniciens, puis toute l'équipe d'organisation qui inclut aussi l'équipe médicale, la logistique, les gens de la restauration. Bref, il y a un paquet de services qui gravitent là, pour faire en sorte que ce village vive, qu'il soit fonctionnel.
Donc, ça s'ajoute
à ça, évidemment, les membres de la presse. Ça fait vraiment une grosse, grosse communauté.
Oui.
Et déjà là, en soi, ça fait tout un lieu de vie qui est vraiment extrêmement intéressant, puis qui est exactement celui que j'ai connu il y a 21 ans. Ça bouge pas.
Oui.
Les passionnés, d'accord, sont les mêmes qui reviennent. Il y en a beaucoup de concurrents qui y retournent. Beaucoup de gens qui y travaillent aussi pour l'événement qui retournent d'année en année.
Qui retournent, oui.
Donc là, cet esprit-là, il est immuable.
Oui.
Il est là, puis il est extraordinaire. C'est vraiment un lieu. Puis aussi, là, il faut que je vous dise, hein, c'est ce qu'on vit partout dans le monde présentement avec la pandémie. Mais ce que j'ai trouvé fantastique là-bas, c'est qu'on était comme dans une bulle. Et tous les gens...
Comme sur une île, quoi.
Oui. Puis tout le monde qui était là était tellement heureux d'y être.
Oui.
Parce que les gens vivent un rêve, ils réalisent un rêve. Hein?
C'est ça,
donc,
c'est ça.
Donc, il y a une ambiance là, qui est tellement magique, qui est tellement positive. Et mon Dieu, que ça fait du bien.
Alors on fait une pause musicale et puis on revient avec la suite. Et puis, pour terminer, on va parler plus tard là-bas de l'ascension du Kilimanjaro. C'est pourquoi j'ai posé la question si Anne-Marie est née aventurière.
Ben,
au fait,
ben oui.
Oh, bon, allez, une petite pause musicale et puis on vous revient.
Ok,
à tout de suite. C'était la jeune saxophoniste Suzy Aïssès avec le guitariste Arambe Onliyu. Voilà, Dakar 2022, 650 concurrents d'une trentaine de pays, parcours de 8361 km sur 14 jours, 8 villes traversées, 30 voitures, 15 camions, 14 hélicoptères, 7 avions, 20 camions de fret et 12 autobus qui servent à la logistique. Waouh, 135 000 repas qui sont servis. Alors là, environ plus de 1900 journalistes avec 14 nationalités accréditées, dont tu fais partie d'ailleurs.
Oui, voilà. La seule canadienne, par exemple. J'étais la seule représentante canadienne.
Waouh, wow. Ouais. Alors là, la presse en doit beaucoup à Anne-Marie. Hein. La seule de la presse canadienne. Ils n'ont pas envoyé des gens parce qu'il n'y avait pas de concurrents canadiens, quoi.
Ben voilà, c'est ça. Et puis, je pense que ce que j'ai fait pour parce que j'ai publié mes textes dans la presse et puis je pense que ce que la presse souhaitait avoir, c'est ce que j'avais envie de faire aussi, c'est-à-dire je voulais raconter comment ça se vit de l'intérieur.
Oui.
Et c'est la plupart des journalistes qui vont couvrir le rallye, puisqu'ils ont des concurrents de leur nationalité, vont parler des prouesses, en tout cas de la performance des athlètes nationales. Tu sais.
Oui.
Et moi, c'était pas ça l'angle que je souhaitais aborder. C'était vraiment à titre, mettons, de journaliste ou de personne qui le vit, que ce soit quelqu'un qui est caméraman ou quelqu'un qui travaille au niveau de l'équipe médicale, peu importe en fait la fonction qu'on a, comment ça se vit au quotidien, ce bivouac, puis qui sont ses concurrents aussi. Pas seulement ceux qui font les podiums, mais ceux aussi qui... des monsieur, madame, tout le monde qui décident de se lancer dans cette aventure.
Des fois
des couples, des fois des pères-filles, des amis de longue date, des gens qui retournent d'année en année, des gens de tous les âges. C'est vraiment chacun. C'est ça qui était le défi pour moi, c'était de décider de qui j'allais parler parce que tout le monde est intéressant.
Oui.
Tous
les concurrents sont intéressants, oui.
Ils ont tous une histoire, déjà en arrivant là-bas, qui est extraordinaire parce que ça prend beaucoup de travail pour finir le financement, puis après l'entraînement et tout.
Oui.
Donc, des fois, c'est des gens qui se sont préparés depuis des années.
Oui, j'espère qu'ils ont tous des sponsors quand même.
Ils ont, la plupart, oui, parce que ça coûte très cher.
Oui.
Et donc, mais tout le parcours de chacun est intéressant. Puis après, bien, rendu là, il se passe plein de choses aussi pour eux. Donc, c'était ça qui était, en fait, le défi pour moi, c'était de discriminer de qui j'allais parler parce que tout le monde me semblait tellement intéressant. Il y a des équipes féminines, 100% féminines, avec des mécaniciennes dans la vingtaine. Alors ça, c'était incroyable.
Des mécaniciennes dans la vingtaine?
Oui, il y a une fille de Barcelone qui a décidé de fonder une équipe 100% féminine. Donc, ça voulait dire qu'elle et sa copilote, c'était des femmes. Et les filles, l'équipe mécanique, c'était que des filles. La coordonnatrice, la gérante, c'était en fait un team de 6 filles. Mais ce qui était pour moi le plus extraordinaire, c'était les mécaniciennes. Alors, deux jeunes filles dans la vingtaine, puis de les voir travailler soir après soir sur le véhicule pour leur mettre en état pour que les filles puissent repartir faire l'épreuve à chaque matin. C'était extraordinaire. Et dans le sourire, la compétence, le sourire, la bonne humeur, tout ça, là, c'était
vraiment
impressionnant.
Le plaisir, c'est du bonheur pour ces filles-là de se retrouver là d'ailleurs parmi ces grandes têtes du Dakar. Et parce que c'est un événement mythique quand même, c'est Paris-Dakar. Ça a commencé, nous autres, on n'était pas nés là. Bon.
Bon, on peut dire ça. Ça nous fait plaisir de le passer.
Oh là là!
C'est tout petit.
Ah non, voilà. Et bon, c'est vrai, ça fait longtemps que ça court. Et puis vous-même, en tant qu'expérience dans ce cas-là, cette expérience saoudienne que vous venez vivre, l'année prochaine, je ne sais pas si là-bas, ils vont rester là-bas encore, je crois.
Oui,
bien.
Ils avaient un contrat sur 5 ans.
5 ans.
Alors là, il en reste 2.
Oui.
Et puis après, c'est à voir, là, mais l'Arabie Saoudite est vraiment contente d'avoir l'événement, là.
Oui, c'est ça.
Mais c'est un beau terrain aussi. Tout à l'heure, j'en parlais. C'est sûr que c'est pas comme de passer d'un pays à l'autre. Là,
non. Ils ont l'air le plus grand désert au monde aussi. Hein.
C'est un superbe terrain de jeu pour faire du hors-piste.
Oui.
Alors, les concurrents s'éclatent.
S'éclatent vraiment. Alors, parce que bon, le temps nous est reparti, on a encore quelques minutes là. Je ne vais pas aujourd'hui là vous laisser partir sans parler de cette histoire de Kilimanjaro en 2000. Vous avez fait les 5895 mètres d'altitude là, du Kilimanjaro?
Oui, j'ai fait ça, mais c'était pénible. Genre, je ne le ferai plus jamais.
Je m'apprête à vous demander si c'était à refaire. Vous allez refaire ça?
Non, merci. C'est fait. Tu sais, comme on dit, là, been there, done that, got the t-shirt, took the picture, puis c'est de
faire. C'est des amis qui vous ont motivé ou bien c'est votre, c'est votre côté aventurière là, qui a fait que vous vous êtes retrouvé là-bas au sommet de cette grande. C'est la première montagne africaine d'ailleurs.
Oui, c'est le toit de l'Afrique, on dit.
C'est le toit de l'Afrique, oui. Ouais.
En fait, c'est qu'on allait là-bas déjà pour faire. En fait, on allait au Kenya. qui est tout juste à côté de la Tanzanie, là, l'endroit où on allait.
Et il y a beaucoup de gens, il y a des gens, beaucoup de gens qui pensent que c'est au Kenya, c'est en Tanzanie.
C'est en Tanzanie, le Kilimandjaro.
Voilà.
Et donc, nous, on allait faire un défi de vélo de montagne,
oui,
en fait, au Kenya.
C'est dans la même année que vous avez participé à ce raid de vélo de montagne.
Oui, c'était le même voyage. Et là, mes amis m'ont dit, ben, puisqu'on est là, on devrait faire le Kilimandjaro.
D'une
après la
coup.
Compétition de vélo, ouais, allons faire le Kili. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis moi, j'étais un peu réticente parce que en plus, je suis pas une adepte de randonnée pédestre. Alors, en partant, moi, c'est pas mon sport, la rando.
Oui.
Puis la haute montagne, ça m'interpelle pas plus qu'il faut. Et ben, c'était difficile parce qu'à l'époque, on le faisait en 5 jours, monter et descendre. Aujourd'hui, ils le font en 7 jours. Donc, ça laisse au corps le temps de s'acclimater comme il faut. Alors qu'à l'époque, ils faisaient ça trop vite.
Oui.
Ils faisaient en sorte que bien des gens qui n'arrivaient pas à faire le sommet parce qu'ils tombaient, ils étaient trop malades.
Oui.
Donc, c'était vraiment pas une partie de plaisir. C'était pénible.
Oui.
Non, vraiment, là, on était malades, on avait tous mal à la tête, ça vomissait, ça...
Oh.
Ah, c'était... On était comme des bêtes, vraiment, oh, là.
Je peux m'imaginer que... c'est comme les gens... Moi, le Compostelle, moi, j'ai jamais rêvé d'aller faire le Compostelle, le chemin de Compostelle, ou bien j'ai jamais rêvé d'aller faire le Kilimanjaro.
Non.
Je sais que je suis pas capable.
Ouais, c'est pas nécessaire. On peut faire autre chose.
Non.
Mais ce qui est drôle quand même, c'est genre, c'est quand je parle de mon expérience au Kilimanjaro dans les mêmes termes que je viens d'utiliser, là,
oui,
et bien, j'ai des amis qui me disent, mon Dieu, que tu me donnes envie de le faire.
Ouais.
Alors, tu sais, je veux dire, on a chacun notre façon de voir de nos lunettes. Hein, on a chacun nos lunettes. Et il y en a pour qui ce que je viens d'énumérer comme expérience, ça fait oh là là, j'ai envie de vivre ce défi. Moi, je, en tout cas, bref, ça se fait à chaque année. Hein. Moi, je l'ai fait en 2000, mais depuis, évidemment, ça gagne en popularité d'année en année. Là, je ne sais pas combien il y a de grimpeurs chaque année qui le font, mais c'est de plus en plus.
Oui.
Puis c'est, ce qui est intéressant aussi, c'est de le voir alors qu'il y a encore cette glace éternelle, en fait, qui ne sera pas éternelle. Tu sais?
Ah oui,
alors,
ça fond, ça fond d'ailleurs.
À fond, c'est ça. Donc, ceux qui veulent vivre ça, il faut y aller. Hein? Il faut y aller.
Merci beaucoup, Anne-Marie Lefebvre. Et puis, je ne sais pas, ceux qui ne connaissent... est-ce que vous pouvez donner le numéro qu'on a, le lien de votre blog, là, s'il vous plaît?
Ah, ben pour le, tout ce que j'ai fait pour le Dakar, c'est
oui,
sur Facebook. C'est Anne-Marie Lefebvre au Dakar 2022.
Oui.
Et donc, en cherchant sur Facebook, vous pouvez le trouver, là, ma page. Et puis, j'ai fait plein de choses. Je faisais toutes sortes d'entrevues avec des petites entrevues vidéo avec des concurrents.
Oui.
Alors, vous allez pouvoir voir l'ensemble de tout ça, puis des photos, puis toutes mes expériences, en fait, sont toutes élaborées, là. Donc, alors, c'est ça. C'est facebook.com/AM Dakar 2022. Donc, AM, c'est ça. AML, pardon, AML d'Anne-Marie Lefebvre, Dakar 2022.
L'amoureuse du désert, Anne-Marie Lefebvre. Merci beaucoup de nous parler un peu de ce mystique rallye de Dakar, ce Dakar d'ailleurs, là, pour 2022. Au plaisir de vous réentendre pour un autre projet fou.
Oui, il y en aura d'autres, c'est certain.
Ouais, je sais, pas surpris.
Au
allez,
plaisir. À
bon
prochaine.
Reste de semaine, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Oui.
Been hung up, I'm too close to the firefight, to your soul. I'm surrounded by your ghost, still taunted by your song. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. 5 a.m. little sailboat, ride up and down your waves. Wanna feel
back home. Close my eyes, take me back.
Oui, c'était The Devil Musical, Sailboat Bed. Merci à Louis Thibault qui est venu nous parler de nutrition, nutrition, nutrition. Et à notre invité, Anne-Marie Lefebvre, qui est venue parler de Dakar 2022, le rallye bien sûr. Merci à toi Nicolas, on se retrouve demain à la même saison de Canal M. Et vous chers auditeurs, fidèles auditeurs et auditrices, merci de suivre cette émission depuis le début. Et là, au plaisir de vous voilà, recroiser ici encore à l'escale 17-18. Sur les ondes de Canal M, bien évidemment. Allez, prenez soin de vous, de vos minutes, et je vous dis ciao.